Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal Afrique avec Vincent Dublanche. Bonjour Vincent.
Bonjour Marion, bonjour tout le monde.
Un reportage à Bangui pour débuter votre journal.
Oui, la capitale centrafricaine où le parti présidentiel mobilise en faveur d'un nouveau mandat du président Touadéra. Officiellement, celui-ci ne se prononce pas, pas encore en tout cas. On sera aussi en République démocratique du Congo dans quelques minutes. Les délestages, le manque d'électricité rendent la vie difficile pour les habitants de Kinshasa. À suivre aussi dans cette édition, quelle justification au retrait du Niger de la force mixte dans le bassin du lac Tchad? Et puis quelle réaction à la grâce accordée en Guinée à Moussa Dadis Camara? On entendra celle de l'avocat d'un de ses co-accusés, condamné lui aussi il y a 8 mois maintenant. Le journal des sports dans 10 minutes, début parfait pour le Maroc dans sa CAN U17 de foot. Et puis l'international congolais Dayael Moukao boude-t-il la sélection nationale après 2 non-titularisations? On va en parler. Et d'abord donc la Centrafrique. Ils étaient plusieurs milliers hier pour soutenir le président Faustin Archange Touadéra. Grand meeting à Bangui au stade Barthélémy Boganda ce dimanche. Organisé par le parti présidentiel, le mouvement Cœurs Unis, le but, réclamer un troisième mandat de Faustin Archange Touadéra à l'occasion du 9e anniversaire de son accession au pouvoir. Et ce alors que son deuxième mandat s'achève cette année. La nouvelle constitution centrafricaine adoptée il y a 1 an et demi lui offre la possibilité de briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans chacun. Reportage Rolf-Steve Domialeuch.
L'hymne national pour donner le temps. Dans les gradins, sympathisants et invités venus soutenir le président reprennent fièrement les paroles pour célébrer la patrie. Adrien Zaba est l'un d'eux.
Je suis là avec toute ma famille pour le soutenir parce qu'il a fait beaucoup de choses. C'est comme un révolutionnaire, quelqu'un qui a un objectif à atteindre.
Les couleurs bleu et blanc du parti présidentiel flottent partout dans le complexe sportif Barthélémy Boganda. Dans son t-shirt blanc à l'effigie du président Faustin Archange Touadéra, Freddy Mapuka explique les raisons de sa présence.
Quand la République est rentrée dans le conflit, il n'y a pratiquement pas d'armée. Et nous sommes aujourd'hui à 24 000 militaires qu'il a recrutés. C'est pour cette raison que je suis venu soutenir le président de la République pour qu'il puisse revenir et continuer, c'est-à-dire les 14 ans qui restent.
Malgré l'enthousiasme de la foule, le président Faustin Archange Touadéra garde le suspense.
Je remercie toutes les voix des associations qui se sont levées pour la poursuite de notre vision pour un Centrafrique libre et prospère. Cependant, ce qui nous importe pour l'instant, c'est la poursuite de mon mandat en cours. Le moment venu, j'en aviserai.
La présidentielle et les législatives sont officiellement prévues en décembre prochain. Rolf-Steve Domialeuch, Bangui. RFI.
Et les opposants réunis au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution tiendront également une marche. Ce sera vendredi dans la capitale contre un troisième mandat du chef de l'État. Ce sera le thème également d'appel sur l'actualité tout à l'heure à 8h10 temps universel, 10h10 heure de Paris. En République démocratique du Congo, les consultations initiées par le président Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, reprennent ce lundi à Kinshasa, une semaine après. Une bonne part de l'opposition congolaise reste sur sa position et refuse d'y prendre part. Ces oppositions congolaises préfèrent la médiation des églises catholiques et protestantes pour la paix dans l'Est, car c'est bien l'objectif affiché par les autorités de Kinshasa avec cette proposition de gouvernement d'union nationale. Jusqu'ici, seuls les grands noms de la majorité au pouvoir ont été consultés par le conseiller spécial du président en matière de sécurité. Ces consultations sont censées se terminer cette semaine. La République démocratique du Congo, où des organisations de la société civile dénoncent les coupures d'électricité, prolongé parfois dans une bonne partie de la capitale Kinshasa, la société publique d'électricité, la SNEL, est mise en cause. Cela suscite une levée de boucliers de la part de la nouvelle société civile congolaise, l'organisation NSCC, qui l'a dit par communiqué hier et qui l'a dit aussi à RFI. Écoutez son président Jonas Tshombela.
Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Toutes ces coupures intempestives, le délestage prolongé, des pannes généralisées, et cette situation met en péril des vies humaines dans la capitale, paralyse les activités économiques, compromet même l'accès à certains services essentiels, l'éducation et la santé. Ça favorise même l'insécurité dans la ville, la criminalité dans plusieurs quartiers de la capitale. Malgré ces défaillances, qui sont devenues chroniques, La SNEL persiste avec sa politique de facturer mensuellement ses clients sans qu'ils soient servis. Tous ces éléments mis ensemble ont poussé la ministre civile à lever la voix. Et là, nous exigeons même la démission immédiate des autorités de la SNEL, responsables de cette gestion défaillante et de la souffrance que la population est en train d'en pâtir actuellement. Dans le quartier, c'est la mort, mais dans le centre-ville, c'est l'économie qui est en train de prendre le coup. C'est une situation généralisée. Et quelle est cette entreprise qui peut être gérée de cette manière sans qu'il y ait des gens qui rendent compte? Où sont passés les députés? Où sont passés les sénateurs? La population est abandonnée elle-même.
Propos recueillis par Pascal Moulégois. On l'évoquait hier matin, en bref, tentons maintenant d'y voir plus clair. Retour sur cette annonce, samedi soir de Niamey, le retrait de la force multinationale mixte, l'alliance stratégique militaire de lutte contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad. Elle comprend 4 pays, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Ils mènent souvent des opérations conjointes contre les éléments de Boko Haram ou de sa scission, l'ISWAP. Le Niger déjà s'était retiré de cette force au lendemain du coup d'état de juillet 2023. Finalement, Niamey l'avait réintégré un an plus tard. Nouveau départ donc, annoncé samedi, les autorités nigériennes motivent leur décision par un redéploiement de troupes sur d'autres objectifs, Alexis Guilleux.
Officiellement, Niamey indique que son retrait de la force multinationale mixte a pour but de renforcer, je cite, la sécurisation des sites pétroliers menacés par les groupes armés. Les autorités nigériennes disent vouloir mettre l'accent sur la protection des ressources d'hydrocarbures dans la région de Difa, alors que l'oléoduc qui achemine le pétrole brut vers le Bénin est régulièrement attaqué. Plusieurs attaques ont été revendiquées par des rebelles Toubou qui demandent la libération du président renversé Mohamed Bazoum et le rétablissement de la constitution. Ces derniers mois, les sabotages se sont multipliés à la frontière avec le Nigeria. Même si le sujet n'a pas été mentionné samedi soir, Niamey soupçonne Abuja de tentatives de déstabilisation et reproche aux autorités nigérianes de ne rien faire pour empêcher ces incidents le long de l'oléoduc. Mais selon plusieurs observateurs, ce retrait serait symptomatique des difficultés des forces armées nigériennes. En seulement 6 semaines, 3 attaques attribuées à Boko Haram ont ciblé leur rang, faisant 25 morts et des blessés. Ce retrait du Niger est un coup porté à la force multinationale qui signe aussi la fin des échanges d'informations sur les mouvements des djihadistes, toujours actifs et qui circulent facilement entre les frontières poreuses du bassin du lac Tchad.
Les réactions continuent après la grâce accordée vendredi à Moussa Dadis Camara en Guinée par le président de la transition Mamadi Doumbouya. L'ancien putschiste avait été condamné en première instance en juillet dernier à 20 ans de prison ferme, 20 ans pour crime contre l'humanité, pour sa responsabilité hiérarchique dans le massacre et les viols commis le 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Les autorités guinéennes, pour l'instant, n'ont pas évoqué le sort des 7 autres condamnés dans cette affaire, dont Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, qui était aide de camp de Moussa Dadis Camara à l'époque. Il a été coupé de 10 ans d'emprisonnement. L'avocat de Toumba, maître Lansiné Silla, réclame que cette grâce présidentielle soit étendue à son client et à tous les autres condamnés.
Cette mesure qui a été prise en faveur du président Dadis, nous pensons qu'elle doit être au nom de l'équité, au nom de la justice, au nom certainement de l'esprit de réconciliation qui guide le président de la République. Cette mesure mérite d'être étendue à tous les autres condamnés, dont notamment M. Aboubakar Diakité Ditoumba. Nous demandons au président d'aller au bout du chemin qu'il a emprunté. C'est de faire en sorte que son pardon soit accordé à tous ceux qui ont été condamnés pour les mêmes faits. C'est à ce prix que nous allons comprendre qu'il est animé d'une véritable volonté de réconciliation qui ne peut pas se faire dans l'exclusion.
L'avocat de Toumba, maître Lansiné Silla. Plusieurs juristes s'interrogent par ailleurs sur les conditions d'application de cette grâce. Le code pénal guinéen prévoit qu'une grâce ne peut être accordée qu'à une personne condamnée définitivement. Ce qui n'est pas le cas de Moussa Dadis Camara. Sa condamnation en première instance a fait l'objet d'appel. Après 29 jours de jeûne, place à l'Aïd El Fitr. La fête de la fin du Ramadan, c'est aujourd'hui à Madagascar, au Burkina Faso ou encore au Cameroun. C'était hier, dimanche, dans de nombreux pays. Reportage à Goma en RDC à lire sur RFI.fr. Nous sommes à Abidjan dans cette édition. Immersion tout de suite dans une famille musulmane avec Abdulaziz Diallo.
Dans cette cour commune d'Abobo, l'effervescence culinaire bat son plein. Les marmites mijotent, les odeurs épicées embaument l'air. Au menu, tchep, poulet grillé, frites et couscous. Le festin se prépare avec soin. Djeneba Silla fait partie des dames au fourneau.
On envoie un peu de tout. Les beaux-frères, les maris, ils sont assis, ils mangent ensemble. Quand il y a la fête, la cour est remplie. Nous sommes très, très, très contents.
À la mi-journée, place au repas en famille et entre voisins. Un moment de convivialité qu'attendait avec impatience Boubacar Camara, venu spécialement de San Pedro.
Chaque année, c'est comme ça. Quand Dieu nous donne la fête, on se réunit, on partage ce qu'on a ensemble. C'est une tradition. Depuis nous, on est tout petits. Aujourd'hui, on a grandi, on a notre famille. On essaie de perpétuer cette action-là parce que c'est une action noble.
Heureux d'être entouré de ses enfants et petits-enfants, le père de famille ne cesse d'adresser des prières pour l'avenir. Amara Camara.
Toute la famille réunie, du plus petit au grand. En tout cas, la joie immense. On prie Dieu, le jeûne que nous avons fait, que Dieu n'a qu'à exercer ça. Dieu fasse que l'année prochaine, nous trouvons en bonne santé, prospérité pour tout le monde.
Une journée où spiritualité et convivialité se mêlent, clôturant le Ramadan dans la joie du partage. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
L'Aïd au Nigeria, où pour la deuxième année consécutive, les autorités ont décidé d'annuler la procession du Durbar Salah. C'est un important festival équestre qui marque traditionnellement la fin du Ramadan dans plusieurs villes du nord du Nigeria. Le nord du Nigeria qui est à majorité musulmane. Cette décision d'annulation du Durbar Salah pour la deuxième année a été prise par mesure de sécurité, disent les autorités. En effet, depuis près d'un an maintenant, on en a parlé sur RFI, il y a une dispute qui oppose l'émir Sanoussi Lamido Sanoussi et l'émir déchu Aminu Ado Bayero. Tous deux se revendiquent du trône. Lisa Fabian.
La querelle des émirs est encore loin d'être apaisée à Kano, alors que la justice nigériane continue de rendre des décisions parfois contradictoires dans l'affaire opposant les deux chefs traditionnels depuis près d'un an. Dans ce contexte, la cérémonie annuelle du Durbar risquait de devenir un terrain d'affrontement entre les deux hommes qui prévoyaient d'organiser deux défilés en parallèle. Alors que l'émir Lamido Sanoussi avait été chargé d'organiser les festivités par le gouverneur, l'émir déchu Aminu Ado Bayero a déclaré qu'il comptait organiser son propre Durbar, ce qui a alimenté la crainte d'affrontement entre leurs soutiens. Face aux pressions, Aminu Ado Bayero s'est finalement résigné à abandonner son projet, ce qui n'a pas empêché l'annulation de cette importante cérémonie. La police de Kano a indiqué que la fête équestre risquait d'être infiltrée et utilisée pour causer des troubles à l'ordre public. C'est la tension croissante et les incertitudes entourant ces activités qui ont conduit à cette décision, ont indiqué ses responsables. C'est la deuxième année de suite que le Durbar est annulé à Kano en raison des dissensions entre les deux émirs.
Et puis toujours au Nigeria, le lynchage de 16 voyageurs dans le sud-est du pays provoque une onde de choc. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre les victimes encerclées par des jeunes et aspergées d'essence, incendiées. Le président Tinubu